Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure en rentrant. Nous sommes heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Il y a longtemps qu'on n'était pas venus, alors ça nous fait plaisir de vous revoir. Que Dieu veuille bénir ce moment aussi, et surtout la lecture de sa parole. Nous allons prier d'abord parce que nous avons besoin de lui. Oui, Seigneur Jésus, cet amour dont tu nous aimes, nous avons besoin d'en être imprégnés. Pour ne pas que nous recherchions en nous-mêmes ce que nous avons pleinement en toi. Parle à nos cœurs, Seigneur, c'est toi que nous avons besoin d'entendre, ce n'est pas un homme, mais toi, qui a besoin de parler à nos cœurs pour que nous apprenions à connaître le tien. Seigneur, ce cœur qui nous a tant aimés, nous voulons nous tenir près de toi, parce que bientôt nous serons avec toi, dans la félicité de la maison du Père, où tu es déjà pour nous. Seigneur, garde nos cœurs pour ce moment-là et qu'en attendant, nous soyons aussi, Seigneur, de ta part, ici-bas, des témoins pour toi. Nous nous remettons à tes soins encore maintenant. Bénis ce temps. Par Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons. Amen. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin s'adresse essentiellement à ceux qui ont déjà mis leur foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Je veux être clair et le dire clairement. Alors si quelqu'un n'a pas encore fait ce pas de la foi, qui n'a pas encore vu en Jésus-Christ son sauveur personnel, je l'invite à le faire dès à présent, parce que le temps passe et passe très vite, et nous ne savons pas, même si la journée se terminera, pour nous chrétiens, nous sommes assurés qu'elle se terminera toujours dans l'éternité glorieuse, près de Dieu, mais quel drame ce sera pour ceux qui resteront ici-bas, sur la terre, au milieu des tourmentes, ce qui retient le Saint-Esprit ne sera plus là pour retenir encore comme il le fait aujourd'hui. Donc j'invite encore les personnes qui n'auraient pas fait ce pas à le faire. Maintenant, j'aimerais lire avec vous un passage, plutôt deux ou trois passages de l'Écriture. Ça va être une lecture peut-être un peu longue, mais laissez-moi vous dire qu'il vaut mieux que ce soit Dieu qui vous parle que moi qui vous parle de Dieu. Nous allons lire dans l'Évangile selon Marc, deux passages. Marc 6. Marc 6, verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et ils se mirent à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages, les environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent, répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient environ 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta avec eux, vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Un second passage, dans deux pages, une page plus loin, Marc 8. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule, et il y avait encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Je passe le passage des pharisiens et je passe un peu plus loin, les disciples, verset 13 d'ailleurs. Et puis, il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Deux scènes assez semblables, n'est-ce pas ? Deux scènes qui sont très peu séparés, on les trouve seulement, ces deux d'ailleurs, dans Matthieu et dans Marc. Et souvent on les confond, on n'en fait qu'une de ces deux. Ou alors on traite souvent les disciples de la même manière, ils n'ont rien compris, jamais, et ils ne comprendront jamais rien. C'est un peu notre cas, mais ça y fait rien. On va essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner par ces passages-là. Eh bien, je crois qu'il y a une très grande différence, malgré les similitudes entre ces deux passages, et une évolution un enseignement surtout très profond et très complémentaire entre ces deux épisodes, qui commencent par ce qu'on appelle la multiplication des pains et qui se terminent par un enseignement ou des choses qui se passent sur la mer, n'est-ce pas, de Galilée, où le Seigneur est avec les disciples ou les a rejoints dans le premier passage. Dans le premier passage, donc, nous avons les disciples qui reviennent. Ils reviennent, le Seigneur les avait envoyés pour aller prêcher dans les villes d'Israël, et ils reviennent tout excités de tout ce qu'ils ont fait. Et ils sont aussi un peu fatigués. Alors le Seigneur leur dit, venez, on va se reposer. Le Seigneur va leur enseigner ce qu'est le repos selon lui. Pour nous, le repos, c'est se mettre sur le lit et dormir. Pour le Seigneur, c'est pas du tout la même chose. Et on le voit ici. En termes de repos, il les a obligés à servir à 12 personnes, une assemblée de 5 000 hommes, plus le reste, qui doit faire pas mal de monde. Je ne sais pas si vous avez servi un repas pour 100 personnes déjà. On vous a dit que souvent on s'occupe de Rehoboth où il n'y en a que 70 ou 80. Et je vous dis que c'est un drôle de cirque déjà. Alors, quand il y a 5 000 personnes à servir, c'est quand même pas peu de choses, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a eu un peu de... Donc, voilà un peu le genre de repos. Et puis quand c'est fini... Il leur fait ramasser les morceaux, on gaspille rien avec le Seigneur. On ramasse les morceaux, 12 paniers. Et puis quand c'est fini, maintenant vous allez prendre la barque et vous allez partir. Un peu. On est venu pour se reposer, Seigneur. Tu nous as dit, on va se reposer. On a travaillé déjà un grand moment. Ils ont raconté tout ce qu'ils avaient fait. Oh, tu nous as dit qu'on allait se reposer. On va se reposer. Alors, la journée passe, les heures passent. Le Seigneur enseigne cette foule qui est venue le rejoindre. Je ne veux pas entrer dans le détail de d'autres points, mais essayez de vous faire toucher du doigt ces réalités-là parce que elles nous touchent tous les jours. Alors. Les foules sont venues là et le Seigneur devant cette foule, qu'est-ce qu'il est ému de compassion. Le vrai serviteur qui sert en permanence. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'avait beaucoup frappé. J'étais jeune, j'avais 20 ans je crois, je faisais mes études d'architecte. Et j'étais parti en Grèce pour... Quel est l'architecte qui ne va pas voir la Grèce, puisque c'est un peu l'origine de toutes ces choses-là, de toute l'architecture. Et j'étais allé voir un cher frère, serviteur du Seigneur à plein temps, à Athènes. Et comme moi j'étais en vacances, je lui ai dit, alors vous avez, et qu'il avait l'air de, bon, qu'il était à notre disposition gentiment, il nous avait reçus, on était avec un petit groupe de quatre jeunes. Je lui ai dit, frère, vous avez quelques jours de vacances ? La gifle, mes amis, la gifle. Un serviteur du Seigneur n'est jamais en vacances. Je l'ai reçu plein la figure ce jour-là. Mais gentiment, il me l'a dit très gentiment. Mais ça m'a, je vous assure, c'est descendu bien profond dans mon cœur. Voilà, donc ici, le Seigneur va leur montrer cela. Il est là, il est venu vous reposer un peu à l'écart. Et voilà qu'il les enseigne. Alors le disciple, quand même, il voit leur passer. Excusez-moi, il n'y avait peut-être pas de montre, mais il voyait leur passer. Il dit, et ça on le voit aussi, n'est-ce pas ? On prêche en particulier... À la place où je suis, souvent, on voit que les gens commencent à dire que leur un peu sonné, qu'on commence à piétiner un peu et dire jusqu'à quand il va parler, n'est-ce pas? Oh Seigneur, bon, renvoie les foules, s'il te plaît, ça suffit maintenant. Tu nous as promis du repos, on veut un peu de repos avec toi, n'est-ce pas? Renvoie-les. Vous remarquez que c'est ici les disciples, dans le second passage, vous verrez que c'est le Seigneur qui le fait. Ici, c'est les disciples qui leur disent renvoie-les. On voulait du repos et voilà ce que tu nous proposes. Et puis au lieu de leur donner ce repos, il va en mettre une couche de plus. Vous donnez-leur à manger. Alors là, moi je suis bouleversé quand je lis ici. C'est vrai qu'on voit l'évolution dans le cœur des disciples, on va la voir. Avec quelle mesure mesurent-ils ce que le Seigneur Jésus leur dit ici? Vous donnez-leur à manger. Avec la mesure de leur porte-monnaie. Il faudrait 200 deniers. Le fric, le fric, le fric. On a besoin de fric pour servir le Seigneur. Vous entendez pas ça dans les églises quelquefois? On peut pas le faire parce qu'on n'a pas de fric. C'est ce qu'on entend souvent au milieu de nous. On peut pas servir le Seigneur parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens matériels de le faire. Et le Seigneur, où est-il dans tout cela? Il est mort? Non, il est là. Il est là. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de foi. Est-ce que le Seigneur est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Et alors, deuxième point qui me choque dans ce premier passage, mais qui me choque, qui nous montre ce que nous sommes par nature, mes amis. C'est pas pour les jeter la pierre aux disciples, c'est parce que le Seigneur, par ces passages-là, veut nous parler. Combien avez-vous de pain? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas pris. Ils sont obligés d'aller chercher dans le milieu de la foule qu'ils ne voulaient plus voir. C'est au milieu de la foule qu'ils ne voulaient plus voir que se trouvera, dit l'évangile selon Jean, un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Cette foule qu'ils voulaient jeter dehors parce qu'ils voulaient un peu vivre avec leur Seigneur tranquille, un petit moment de communion fraternelle, n'est-ce pas? C'est la foule qui est dehors, qu'on veut mettre dehors. Un petit garçon. Les petits de la terre, c'est ceux dont le Seigneur a besoin pour nourrir les foules. Pas des gens qui en ont plein la tête, mais des gens qui sont simples. Et c'est ce petit garçon qui va mettre ses 5 pains et ses 2 poissons à la disposition du Seigneur. C'est très clair, si vous l'avez lu, hein, il le dit, allez voir. Donc ils n'en ont pas sur eux. Allez voir, ils reviennent, ils disent, oui, il y a 5 pains et 2 poissons. Et on apprend par Jean que c'est un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Alors, je passe bien des détails sur ce passage d'une richesse à tout point de vue, sur le nombre, sur tout un tas de choses, les 12 paniers, etc. On pourrait en dire long sur les 7000, etc. Mais je ne veux pas passer sur ça. Je veux passer sur ces points pratiques de notre vie chrétienne. Bien-aimés, quelle leçon pratique, j'en ai déjà peut-être un peu donné, mais pouvons-nous tirer? Le dimanche matin, quand nous venons au culte, nous y venons les mains vides? Nous y venons pour nous reposer? Pour dire, Seigneur, maintenant, on a travaillé toute la semaine, dimanche matin, on va écouter le prédicateur, pendant ce temps, on va se reposer, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça que le Seigneur attend de nous? Il y a 2 passages, et quand il y en a 2 dans l'Écriture, c'est toujours très solennel, parce que toujours, les Juifs sont très sensibles, c'est pour ça que, je le dis pour les jeunes, souvent il est dit, en vérité, je vous dis, dit le Seigneur, par 2 fois il répète en vérité, parce que pour les Juifs c'est très important, le double témoignage, rappelez-vous, c'est donné dans l'Écriture, par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera approuvée, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Mais par 2 fois, il dit, on ne paraîtra pas à vide devant ma face. C'est dans Deutéronome 16 et dans Exode 12, je crois, sauf erreur. On ne paraîtra pas à vide devant ma face. Est-ce que nous venons au culte le dimanche matin pour nous reposer? Ou est-ce que nous venons pour apporter nos paniers pleins des fruits que le Seigneur Jésus a mis dedans, parce que ce n'est pas nos fruits, c'est celui que lui-même a produit dans nos vies, et que nous devons apporter, les 5 pains et 2 poissons. 5, vous savez, dans l'Écriture, je suis obligé d'en dire un mot, c'est le mot de la faiblesse, c'est le mot de l'homme. C'est la faiblesse même. Nous ne nous apportons pas une grande connaissance, une grande théologie, nous venons avec notre faiblesse, nos 5 pains, nos 5 doigts et nos 5 pieds, nos 5 doigts de pied. 5, c'est le chiffre de l'homme, de la faiblesse humaine, et que Dieu veut prendre en main pour la transformer en richesse pour son peuple. Saurons-nous donner cela au Seigneur? Saurons-nous assez humbles comme ce petit garçon? Moi, je suis frappé qu'un petit garçon ait donné ça. Il avait, lui, emporté son pique-nique, excusez-moi, pour rester ses jours avec le Seigneur. Et le donner, c'était quand même peut-être quelque chose, hein? C'est beau de voir un petit garçon qui donne au Seigneur ces choses-là pour que ça produise ce fruit pour sa gloire. Alors on est étonné après, je passe parce que le temps passera vite, mais après ça, je vous ai dit, le Seigneur va, bon, ils vont ramasser tout ça, j'en ai parlé, il va leur dire, maintenant vous partez sur la mer et moi, pendant que moi je renvoie la foule. Et tu nous as dit qu'on allait se reposer, non? Il est contraint à partir. C'est peut-être pas très facile, mais ils vont partir. Et il sait très bien, le Seigneur, qu'ils vont partir et qu'ils vont rencontrer la tempête. Et lui, va où? Sur la montagne. On a souvent vu dans cela, et c'est vrai, on a parlé tout à l'heure des souffrances et de la présence du Seigneur dans nos souffrances. Le Seigneur est sur la montagne et il prie pendant que nous sommes au milieu de la mer. Et des tempêtes de la mer, c'est vrai. C'est une très belle image du témoignage chrétien que nous sommes amenés à porter aujourd'hui. Le Seigneur a dit, je ne demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Nous sommes au milieu du monde encore, c'est vrai, dans les tempêtes, dans les combats, et lui est sur la montagne, et il prie, comme il l'a dit pour Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais bien-aimés, avez-vous pesé cette traversée de la mer? Moi, ça me bouleverse. Le Seigneur a attendu qu'il soit en plein milieu de la mer, en plein milieu de la nuit, pour venir au milieu d'eux et pour aller à leur rencontre. Il n'y est pas venu tout de suite. Et la tempête n'est pas arrivée tout de suite. Si elle est arrivée tout de suite, ils auraient fait demi-tour, ils seraient revenus au port. Mais là, en plein milieu de la mer, on ne sait plus quoi faire. Si on va en avant, on a autant de route à faire que si on va en arrière. On est en plein milieu de la panade complète. C'est la panade complète, et en plus la nuit, complète. Avec l'orage, il n'y a pas beaucoup d'étoiles qui brillent, il n'y a pas beaucoup de lune qui brille. C'est la nuit complète, dans des conditions insupportable. Et c'est là que le Seigneur va venir à leur devant. Combien de fois nous sommes pressés? Combien de fois nous, oui, la tempête est là, la tempête est là. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Le Seigneur le sait. Il est sur la montagne, il dit qu'il les voyait se tourmenter à ramer. Vous l'avez remarqué, c'est écrit. Il les voyait. Et il va venir au-devant d'eux. Mais alors on est un peu étonné, pourquoi est-il dit, à la fin de ce paragraphe, il n'avait pas compris le miracle des pains. Qu'est-ce que ça a à voir avec la tempête et avec cette situation dans laquelle ils étaient? Je me suis souvent posé la question, longtemps. Tant que je n'avais pas vu le motif qui avait amené les disciples à renvoyer la foule, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent. Or, quand vous êtes dans les tourments, ce n'est pas l'argent qui va vous en sortir. Ils sont au milieu de la mer, ils pouvaient avoir la barque pleine d'or et d'argent, ils n'en sortiraient pas. Il faut que qui vienne le Seigneur. C'est pas avec les moyens humains que vous en sortirez, c'est avec le Seigneur. Tous les moyens humains doivent être mis à la mer, doivent être jetés. Prenons garde à cela, nous avons tellement tendance dans nos pays où on est à l'aise à compter, oui on compte sur le Seigneur, mais on aime bien quand même regarder son compte en banque, voir s'il est suffisant pour le problème qui peut se présenter devant nous. On aime bien regarder dans les choses matérielles de la vie et non pas simplement au Seigneur. Donc ils n'avaient pas mieux compris la leçon en effet des pains. Parce que pour eux, ils en étaient là encore, et le Seigneur le dit ici. Rappelez-vous le naufrage de Paul, quand Paul était dans le bateau, eh bien, ils ont dû jeter tout ce qu'ils avaient dans le bateau à la mer pour essayer de s'en sortir. Jonas, c'est pareil, quand la tempête est frappée, ils ont jeté à la mer les choses. Ce n'est pas ça que nous portons avec nous qui nous sauvera de la tempête. Ce qui nous sauvera de la tempête, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je l'ai dit au début, je m'adresse à ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux qui ne le connaissent pas encore. Vous avez là la raison de le connaître. Il faut que Jésus-Christ prenne cette place dans notre barque. Et dès qu'il est dans la barque, le vent se calme. Dès qu'il est dans la barque, le vent se calme. Et ils vont atteindre le port. Quelle leçon il leur a donnée là? Et combien nous avons besoin d'apprendre cette leçon dans nos pays? On a tellement tendance à compter sur nos moyens et à dire, Seigneur, bon, on peut pas te servir parce qu'on n'a pas les moyens. Combien j'ai de fois entendu ça dans les églises? On n'a pas les moyens. Vous avez, je pense, de temps en temps à la visite de Louis Pelzer, par exemple. Moi, j'étais un jour frappé quand il nous a rapporté les nouvelles de Russie, où il était allé. Et montrant ses photos, ou ses familles, qui n'ont rien, ont tout mis sur la table pour partager avec eux un bon repas de communion fraternelle. Et je l'ai vécu moi-même étant jeune en Espagne, quand l'Espagne était encore sous Franco. Quand vous voyez des gens qui n'ont rien, ils sont tellement heureux de vous avoir, ils mettent tout sur la table. Non seulement sur la table, mais ils sont prêts à vous donner tout ce qu'ils ont. Quelle leçon ça nous donne, nous. Et nous, nous nous plaignons, et nous disons, Seigneur, mais... Et on n'entend pas ça dans les pays, justement, très à l'aise aujourd'hui, où on dit, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de misère sur la terre. Et s'il nous a donné à nous l'argent pour que nous le donnions aux autres, et non pas, et l'argent et les moyens que Dieu nous donne, même s'ils sont peut-être en diminution aujourd'hui, on est tellement en train de regarder notre porte-monnaie plutôt que de regarder à Jésus-Christ. J'ai été obligé de le dire dans une église, bien-aimée, où on avait tendance à dire, bon, on peut plus soutenir tel serviteur. J'ai dit, votre patron vous a réduit votre salaire? Et vous voulez réduire celui des serviteurs de Dieu? C'est facile de dire, oh, je peux plus parce que c'est la crise. Et moyennant quoi allons-nous faire souffrir ceux qui sont sur le front et qui servent le Seigneur sur le front? Parce que, et nous, on n'a pas... Bon, je sais qu'en Grèce, ils ont réduit le salaire de 5 ou 10%, mais enfin, c'est pas énorme. Voilà. Enfin, ici, on touche ce premier point, et c'est un point très sensible. On touche à Mammon, à ce Dieu qui est le Dieu du siècle, plus que jamais dans nos pays. On le voit, il est en train de s'effondrer. C'est sûr que les jambes sont en train de l'argile et le fer qui font son support sont en train de se manifester. Mais, bien-aimés, voilà l'enseignement que Jésus nous donne ici. Dans le second passage, qui est très similaire, là c'est le Seigneur qui va leur dire, voilà 3 jours, attendez, ça fait pas peu de choses, qui sont là, qui n'ont pas mangé, je vais pas les laisser repartir. Si j'en vois ces jeux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns sont venus de loin. Remarquez qu'ici, ce n'est pas les disciples qui veulent se débarrasser de la foule, c'est le Seigneur qui les met devant leur responsabilité devant la foule. Avez-vous vu cette foule? Êtes-vous sensible aux besoins de cette foule? Alors les disciples vont réagir différemment, et ça me touche beaucoup. Ils ont quand même une réaction. Souvent, vous lirez des commentaires, moi ça m'a, excusez-moi, un peu choqué par moments, des commentaires qui montrent le manque de foi des disciples. Moi, je pense pas que ce soit le manque de foi. C'est, oui, ils ont peut-être pas saisi la chose, mais ils sont devant une situation qui les dépasse, c'est vrai. Mais ce n'est plus une question d'argent. Ils ne parlent plus d'argent ici. Ils parlent par contre de moyens. Où trouverons-nous dans le désert de quoi nourrir cette foule? Où trouverons-nous dans le désert de quoi nourrir cette foule? Est-ce que ça ne nous parle pas d'une manière différente à nous aussi? Parce qu'il faut toujours comprendre ce que le Seigneur nous dit. C'est un enseignement qu'il nous donne pour nous. C'est pas seulement pour raconter une histoire. C'est pour nous parler à nous. Où trouverons-nous dans ce désert de quoi nourrir une telle foule? Où trouverons-nous dans le monde de quoi satisfaire les besoins moraux du monde, des hommes qui sont autour de nous? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ressources dans le monde. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est le désert. Il n'y a rien. Est-ce que nous avons tous bien pesé cela? Je le dis pour moi-même le premier, vous savez, je me pèse souvent la question, pose la question là-dessus. Est-ce que nous n'allons pas chercher des moyens humains, des ressources humaines, alors que les ressources, encore une fois ici, sont celles que Jésus va apporter? Est-ce que nous n'allons pas chercher les ressources dans le monde, dans les formes que le monde apporte? Et les disciples sont sensibles à cela. Je vois cette foule, mais on est dans un désert ici. Vous avez des foules, vous étiez hier là, sur le Capitole, vous avez eu du monde autour de vous. Que leur apportez-vous? Que leur apportons-nous? Que pouvons-nous leur apporter? Aujourd'hui, il y a les hommes politiques qui se disputent à la radio, ça occupe le monde. Mais est-ce que vous croyez que ça les nourrit? Ça leur donne quelque force pour vivre demain? Pour voir l'avenir, pour pouvoir rentrer chez eux. Nullement, nullement, nullement. Mais par contre, ici, le Seigneur Jésus va leur poser la question, combien avez-vous de pain? Et remarquez qu'ici, spontanément, nous en avons 7. Ils avaient des pains sur eux. La dernière fois, ils n'en avaient pas. Ils sont allés chercher un petit garçon. Cette fois-ci, ils ont 7 pains. Ils sont 12, ils n'en ont que 7. C'est vrai qu'il semble qu'ils en aient un peu oublié quelques-uns. Mais n'empêche que, ils les mettent immédiatement à la disposition du Seigneur. Nous avons 7 pains. Et voilà. Il n'y a pas d'hésitation. Ils le donnent. Et je trouve qu'il y a là une évolution. Ils ont déjà au moins compris, ils ont des pains avec eux, et ces pains, ils les donnent au Seigneur immédiatement. Et le Seigneur va faire la même chose, va les transformer, et va leur dire, vous, donnez-leur à manger. C'est pas le Seigneur qui, remarquez dans les deux cas aussi, c'est pas le Seigneur qui le fait directement. Lui multiplie la chose, il va la multiplier, mais c'est à nous, ensuite, de l'apporter. Ce que le Seigneur nous donne, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Ce que nous avons reçu, nous le donnons de la part du Seigneur. Mais cela ne vient pas de nous. Nous apportons au Seigneur notre pain, notre faiblesse. Tout ce qu'il nous a donné, nous lui donnons. Et lui va le transformer et va nous donner de pouvoir, nous, ensuite, le donner aux autres. Voilà ici, l'évolution qu'il y a, me semble-t-il, donc il y a une évolution dans le cœur des disciples. La première fois, c'était toute question de fric. Ici, non, on est dans un désert. Comment faire dans un désert? Où est la chose? Est-ce que nous avons ça comme ressource dans le désert dans lequel nous sommes? Est-ce que nous avons la parole de Dieu, le pain de vie? Le pain de vie qui descend du ciel est entre nos mains par la parole même de Dieu. Il nous l'a donné. Est-ce que nous sommes prêts à le donner? Oui, nous sommes dans le désert. C'est pas en allant chercher les méthodes du monde. C'est pas en allant chercher les ressources du monde que nous en sortirons. C'est en allant chercher les ressources là où elles se trouvent, dans la parole même de Dieu. Et en Jésus-Christ qui nous la révèle. Voilà la ressource qui est donnée ici dans ce second passage. C'est frappant. Et si j'ai lu aussi le second passage, le dernier passage de la traversée de la mer, c'est que vous avez vu que le Seigneur y revient. Comme dans la première fois, il dit, ils n'avaient pas compris. Et là, il va revenir. Mais vous avez oublié ce qui s'est passé là, dans les deux fois? Les pains, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié? Et qu'est-ce qu'il va, pour leur faire venir là, il va leur dire, prenez garde au levain des pharisiens et des hérodiens. Tiens. Et si vous allez dans Matthieu, vous verrez que c'est le pain des pharisiens et des sadducéens. J'aime beaucoup ces passages, bien aimés. Excusez-moi de vous le dire. Parce qu'il me semble que là, le Seigneur enfonce le clou sur ce qui vient de ce que les disciples avaient touché du doigt. Nous sommes dans le désert, il n'y a rien dans ce monde. Oui, il y a les hérodiens et les pharisiens. Les pharisiens enseignaient la loi parfaitement. Paul avait été élevé au pied de Gamaliel. Il connaissait la loi parfaitement, il persécutait l'assemblée. Les hérodiens aussi étaient là. Avec toute leur puissance, puissante armée. Bien-aimés, ces trois fonctions, hérodiens, sadducéens et pharisiens, ici, on est dans le domaine de l'évangile selon Marc, du service. C'est pour ça que les sadducéens ne sont pas nommés ici, c'est les hérodiens et les pharisiens, me semble-t-il. Alors que dans Matthieu, on est dans l'évangile du Messie, il s'adresse essentiellement aux Juifs, du Messie, on a les deux catégories religieuses qui régnaient sur le pays d'Israël à ce moment-là, les Hérodiens et les Sadducéens. Mais ces trois fonctions du monde sont aujourd'hui encore en action. Elles l'ont été tout au long de la vie. Vous lisez le plus vieux livre de la Bible, qui est le livre de Job. Les trois amis de Job représentent ces trois fonctions. Le pharisien, la religion, l'hérodien, la politique, et le sadducéen, l'anarchie. Les trois fonctions courent dans tout le livre. C'est ces trois hommes, Eliphaz, c'est le pharisien, Bildad, c'est l'hérodien, Tsophaz, c'est le sadducéen. Si vous lisez Job, avec cette vision-là, en pensant à ces choses-là, vous verrez que ce qu'ils disent correspond exactement à ces principes-là. Les pharisiens, c'est la religion. Bien-aimés, pour servir le Seigneur, on n'a pas besoin de religion, on a besoin du Seigneur, on a besoin d'un sauveur, de connaître son sauveur. Et on n'a pas besoin de puissance, on a besoin de connaître son Seigneur, c'est lui qui est puissant. Donc, les pharisiens et les hérodiens, de côté. Méfiez-vous du levain. Le levain, c'est toujours dans l'Écriture, ce qui fait mousser dans la pâte, c'est ce qui fait monter la pâte. C'est le péché qui est là et qui vient en avant, qui vient faire mousser l'homme. On est bien, hein. Il n'y a qu'à voir les hommes politiques aujourd'hui, n'est-ce pas? Pour s'en rendre compte. Eh bien, méfiez-vous de tout ça, méfiez-vous. Non, ne touchez pas à ces choses. En fait, il enfonce le clou de dire, on est dans le désert, oui, vous êtes dans le désert. Mais n'allez pas chercher, justement, chez les Hérodiens ni chez les pharisiens. Vous n'y trouverez rien. Méfiez-vous de ces choses. Vous n'y trouverez rien. Alors, ils pensent qu'ils ont oublié du pain. Non, c'est pas la question. Il va les enseigner sur ces choses-là. Mais le pain, vous l'avez. Le pain, vous l'avez. Vous l'avez là, le pain. Vous l'avez là, le pain. En Jésus-Christ. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez pleinement en Jésus-Christ. Voilà ce que vient de dire le Seigneur ici. Il va les enseigner ainsi sur cette chose fondamentale. Et combien nous sommes sensibles, et combien nous allons chercher, et nous influençons sur les méthodes du monde, sur la manière dont on va faire, etc. Je ne veux pas dire qu'il faut être complètement décalé du monde. Hein. Il ne s'agit pas des choses. On vit dans le monde, je ne demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Voilà le principe que le Seigneur a placé devant nous, très clair et très net, n'est-ce pas? Mais prenons garde à tout ce qui devient pour nous un sujet qui passe avant le Seigneur. Tout ce qui même des choses qui sont prisées par le monde, si elles passent avant le Seigneur. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Le Seigneur va très loin, il ne va même pas aux Hérodiens, aux pharisiens. Il s'en va aux affections les plus profondes. Père ou mère ou femme ou enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Il ne touche pas à la superficie des choses, hein, le Seigneur. Il ne rit pas avec ces choses-là. Il faut que lui passe d'abord. Et toutes ces choses-là doivent passer de côté. On a tendance à s'appuyer sur les choses du monde, sur les méthodes, sur les hommes, la manière de faire des hommes, des politiques. Des hommes religieux. Bien-aimé, le chrétien marche avec son Seigneur, la main dans sa main. Et c'est cela dont on a besoin. Et le Seigneur va les interroger. Mais vous avez vu les choses? Vous avez déjà oublié? Vous avez déjà oublié? Ne comprenez-vous pas encore? Ne comprenez-vous pas encore? Ça va être la conclusion de ces moments-là. Combien nous avons besoin d'apprendre? Alors, si vous alliez un peu plus loin, il y a encore une autre scène qui en vaut la peine. C'est quand le Seigneur est descendu de la montagne. Vous connaissez tous ce qu'on appelle la montagne de la Transfiguration, où il était avec les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il va redescendre, et vous savez, c'est là qu'il rencontre ce père qui avait un enfant qui était tourmenté par un démon. Le père se jette aux pieds du Seigneur. Mais Seigneur, viens à notre secours. J'ai appelé tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. Et pourtant, ce qu'on vient de lire au début dans le chapitre 6, ils étaient revenus, les démons sont même assujettis en ton nom, n'est-ce pas? Et là, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient sur eux-mêmes et sur des méthodes et non pas sur le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur va dire, cette sorte-là ne sort que par le jeûne et la prière. Parce que ce n'est pas en comptant sur vos forces. Ils se croyaient parce qu'ils avaient déjà fait des expériences. Nous n'appuyons pas non plus sur nos expériences. Même chrétienne soit-elle, nous devons nous appuyer, je le dis pour ma part le premier, croyez-le, c'est pas pour vous, c'est pour moi aussi, nous appuyer sur le Seigneur. Et ça, nous avons besoin de nous répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est pour ça que le Seigneur l'a laissé dans sa parole. Prenons garde, écoutons ce qu'il nous dit dans sa parole, parce que je crois que c'est très important. Et c'est pas pour rien. Marc, moi j'aime beaucoup cet évangile, il est très condensé. Et à la fois, les scènes qui se succèdent ont des liens si forts entre elles, ces scènes, que ça vaut la peine d'y passer des heures à méditer, à voir, à comprendre, à demander, Seigneur, éclaire-moi sur ces choses-là, parce que il nous apporte des réponses à toute la vie de service dans laquelle il nous appelle. Marc et l'évangile du serviteur fidèle, n'est-ce pas, du Seigneur vu comme le serviteur, n'est-ce pas, et il nous apporte ces réponses pour le service que nous devons rendre au Seigneur en l'attendant. Alors que nous apprenions ces leçons et que nous détournions nos regards de ce vers quoi ce monde aujourd'hui cherche de plus en plus à nous attirer. Tout est fait pour essayer de nous détourner de ce regard fixé sur Jésus. Les affiches, la radio, la télévision, Internet, tout ça c'est... Ça capte les yeux, ça capte les oreilles, ça capte, et finalement on perd de vue l'essentiel qui est cela.